affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Dans notre émission de ce jour, nous allons accomplir une sorte de retour vers celui que nous avons tous été, de retour vers cette contrée à la fois merveilleuse, tumultueuse et pleine de promesses qu'est l'enfance. Mais bien entendu, il ne s'agira pas de seulement cultiver une nostalgie un peu guimauve. Ce voyage sera en effet pour nous l'occasion de réfléchir, de questionner, de nous interroger sur la condition humaine, sur ce qui fait que nous sommes, ou plutôt devenons, des hommes. Sur le sens de la vie, la bonne façon d'éduquer. Vous voyez, c'est un vaste voyage que nous allons accomplir, et c'est pourquoi nous sommes très heureux de le faire en bonne compagnie. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio Chantal Delsol, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, philosophe, et qui vient de publier aux éditions du Cerf un ouvrage consacré à ces questions. Il s'agit d'un personnage d'aventure, petite philosophie de l'enfance, aux éditions du Cerf. Donc, madame, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être pouvez-vous d'abord nous éclairer sur les motivations qui vous ont poussé, vous qui traitez généralement plutôt de philosophie politique, à publier un ouvrage consacré à l'enfance. Quel en est l'objet, les finalités, le ressort premier?
C'est un projet que j'avais depuis longtemps. J'ai toujours eu envie d'essayer de creuser un petit peu à ma manière cette question de l'enfance considérée d'un point de vue philosophique. Il faut dire qu'il y a très peu de choses là-dessus. Il y a bien sûr beaucoup de textes de psychologie, de textes sur l'éducation. Il y a tous des secteurs entiers de philosophie de l'éducation. Mais envisager l'enfance d'un point de vue philosophique, c'est finalement assez peu développé. Il y a quelques ouvrages depuis 50 ans et encore, je ne sais même pas si on peut les compter sur les doigts d'une main. Mais ce n'est pas pour ça que je voulais m'y atteler. C'est parce que je suis passionnée par le phénomène de l'enfance. Bon, c'est un lieu où, disons que la philosophe peut rencontrer la mère de famille, parce qu'au fond, j'ai éduqué 6 enfants, dont un adopté qui est arrivé à la maison à 11 ans, donc c'était très compliqué. Et ça m'a toujours passionnée, le travail de rencontre avec l'enfance m'a toujours passionnée. Maintenant, j'ai un grand nombre de petits-enfants, dont je m'occupe une partie du temps, et donc ça me passionne, et je trouve que c'est très intéressant de réfléchir philosophiquement sur un domaine qu'on connaît vraiment dans la vie, si vous voulez, un peu comme un homme politique qui ferait de la philosophie politique, ou comme un médecin qui fait de la philosophie de la médecine. Je me rappelle que mon maître d'agonier était à la fois médecin et philosophe, et c'est comme ça qu'il était un bon épistémologue. Donc je pense que là, c'est une rencontre heureuse.
Alors vous nous dites d'emblée que la situation de l'enfant dans le monde raconte singulièrement, même avec précision, la situation de l'humanité. C'est-à-dire qu'on commence d'emblée par élargir un petit peu le sujet. Est-ce que c'est pas aussi cet ouvrage sur l'enfance n'est pas une façon de dire aussi autre chose, d'aller au-delà?
Non, je crois que d'un point de vue philosophique, comprendre l'enfance, c'est d'abord comprendre cette situation de l'enfant dans la condition humaine de façon beaucoup plus profonde que nous, parce que l'adulte, et c'est ce que j'ai expliqué tout à fait au début, l'adulte, lui, au fond, passe son temps à essayer de se dégager de cette condition humaine qui est tragique, hein, difficile. Et ce que nous tentons de faire en tant qu'adulte, par exemple, pour citer un premier exemple, c'est de maîtriser le monde. Alors que nous sommes des créatures, au fond, dramatiquement faibles. Et bien sûr que c'est important d'essayer de maîtriser le monde. Mais nous en oublions, où nous tendons à en oublier, du coup, notre condition primordiale. Et ça, l'enfant la connaît, parce que l'enfant, pour reprendre cet exemple, il est faible, et il sait qu'il est faible, il sait qu'il dépend des adultes entièrement. Et cette dépendance, il la connaît mieux que nous. Donc, il connaît la situation de la condition humaine mieux que nous, au fond. Je pense que c'est la première définition qu'on peut en donner, si tant est qu'on puisse appeler ça une définition.
Est-ce que vous pouvez nous décrire davantage cette condition humaine fondamentale qu'on essaierait d'oublier en se travestissant, en se prêtant des pouvoirs que l'on n'a pas?
Ben c'est d'abord la faiblesse, c'est une situation de plus ou moins d'abandon au milieu d'un monde que nous ne connaissons pas, donc c'est au fond, au départ, le non-sens, hein, la situation d'un être qui est pas forcément jeté, comme disait Heidegger, mais laissé, abandonné au sein d'un monde qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas. C'est la situation d'un être dans le chaos, et l'enfant connaît le chaos, puisque tout l'apprentissage de l'enfance va consister à essayer d'échapper au chaos en donnant du sens. Donc tout ça, c'est la condition humaine. Alors il y a autre chose que l'enfant ne connaît pas encore, c'est la mort. Ne connaît pas encore, enfin quand il la rencontre, et effectivement il est très effrayé. C'est un point de la situation humaine qu'il ne connaît pas encore. Mais la situation de faiblesse, de non-sens, de chaos, ça c'est une chose qu'il connaît très bien, contrairement à nous, qui avons passé des années en tant qu'adultes à justement construire du sens, fabriquer du sens, ou découvrir du sens dans le monde.
Alors ces défauts ou cette propension de l'adulte à se mentir n'est pas accentuée aujourd'hui. Est-ce qu'on ne se ment pas davantage encore aujourd'hui que par les temps passés?
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une volonté de la part des adultes à nier cette situation de chaos et de non-sens, et au fond à devenir le maître du monde, parce que c'est un fait de la modernité, et surtout de la modernité occidentale, d'être véritablement les maîtres du monde, et de se dire que même si il y a des faiblesses pour l'instant, mais elles vont disparaître. C'est le post-humanisme, par exemple. Effectivement, il y a quelque chose d'encore plus net aujourd'hui qu'autrefois, en tout cas dans notre société, parce que dans la société occidentale.
On a l'impression, en parcourant le livre, qu'il y a un double mouvement. D'une part, vous l'avez dit en parlant du dénuement de l'enfant, un fort développement des devoirs qui sont ceux des adultes, de protéger les enfants, de les éduquer bien sûr, mais de leur donner de l'amour aussi pour les protéger, les laisser prendre leur ampleur, mais également que l'enfant sera une sorte de contrepoint à l'hubris, la démesure qui nous saisit aujourd'hui, et de la nécessité de trouver une sorte de point d'équilibre entre ces deux pôles.
C'est vrai que quand on regarde les enfants, quand on les observe et qu'on les aime, on a tendance à devenir plus humble, hein, parce que c'est l'enfant qui nous rappelle qui nous sommes, au fond. Donc c'est très important pour nous et je pense que c'est dommage, des adultes qui ne connaissent pas les enfants, qui n'ont pas eux-mêmes d'enfants, qui ne sont pas penchés sur la question de l'enfance, ont peut-être davantage tendance à se croire les maîtres du monde, au fond.
Alors vous avez parlé du chaos, revenons au devoir de l'adulte, parce que finalement la plupart des gens qui nous écoutent en ce moment doivent être des adultes, donc focalisons-nous sur celui-ci et les devoirs immenses qu'il a à l'égard des enfants. Quel est le premier devoir? Je ne vous demande pas des recettes. Le premier devoir de l'adulte à l'égard de l'enfant face à ce monde hostile dans lequel il est jeté.
Ce qui est assez extraordinaire, c'est que finalement, ça ne se pose pas vraiment en termes de devoirs. Alors, après, bien sûr qu'il y a des devoirs et que bien souvent, on regarde le soin qu'on doit donner à l'enfant en termes de devoirs, parce que finalement, c'est très astreignant, un enfant. Ça demande énormément de sacrifices à l'adulte qui s'en occupe. Mais au départ, ça ne se pose pas en termes de devoirs. Et ce que je trouve le plus extraordinaire, c'est que le soin donné aux enfants, l'attention, l'amour donné aux enfants, se donne de façon instinctive, au fond. Et ça c'est étonnant. Quand on regarde la somme de soins qu'il a fallu pour que des milliards d'adultes aient pu peupler la Terre, hein, parce que, eh bien, ça signifie des sommes astronomiques de soins, d'attention et d'amour. Chacun de nous en tant qu'adulte, a nécessité pour se développer, tout simplement pour vivre au départ, une somme de soins incommensurable. Et ça s'est fait d'emblée, ça s'est fait d'instinct. Ça, c'est finalement assez merveilleux, l'amour que les parents portent aux enfants. Les parents, d'abord les parents biologiques, et puis parfois les parents d'adoption, bon, que les parents portent aux enfants de façon naturelle, au fond. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis alors, ensuite, il y a évidemment le devoir dont vous parlez, devoir d'attention. Et c'est là où j'ai fait intervenir la notion d'effroi, en fait, l'effroi qui doit être, au fond, ce que l'éducateur porte en lui, c'est l'effroi de mal faire, l'effroi de ne pas faire assez bien. L'éducation est une tâche tellement lourde, une responsabilité tellement grande, une chose tellement difficile et à la fois tellement importante, au fond, ce qui concerne l'éducateur, c'est l'effroi. De même qu'on peut dire que ce qui concerne le philosophe, c'est l'étonnement, ou le moraliste, c'est l'indignation. Eh bien, pour l'éducateur, c'est l'effroi, parce qu'au fond, c'est une tâche extrêmement importante, et l'éducation, et qui n'a pas de recette. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, nous sommes absolument livrés à nous-mêmes, avec des exemples devant nous. Nous avons des exemples, parce que, par exemple, nous regardons, enfin, moi je sais que je le fais tout le temps, je regarde par-devers moi des gens dont j'estime qu'ils ont bien réussi leur éducation. C'est pas du tout des vedettes absolues, hein. C'est pas du tout des gens dont on parle dans les journaux.
Héros de la petite vie.
Voilà, exactement. Des héros de la petite vie, des gens que je connais. Et d'ailleurs, je ne parle pas, je ne dis jamais c'est un tel ou c'est un tel. Sauf peut-être à mon mari, parce que ce sont des choses intimes. Je dis, tu vois, je trouve que les un tel ont terriblement bien réussi leur éducation, donc j'essaye au fond de leur ressembler. Mais il n'y a pas de recette. Il n'y a jamais un système qui a été rédigé en disant, pour réussir votre éducation, il faut premièrement faire ci, deuxièmement faire ça. Ça n'existe pas. Donc c'est très difficile.
Est-ce qu'il n'y a pas d'autant moins de recettes qu'il y a quand même une particularité de l'éducation, allez, pour simplifier, disons, en Occident, par rapport aux civilisations qui sont les nôtres, mais qui nous ont précédés sur le même espace géographique, mais aussi par rapport à d'autres civilisations. Vous établissez une distinction entre l'éducation d'initiation et l'éducation d'initiative.
Oui.
Vous allez peut-être nous définir ces deux termes, mais dans le cadre d'une éducation d'initiative, c'est quand même plus compliqué, non ?
Oui, je pense qu'effectivement, c'est beaucoup plus difficile parce que, l'éducation d'initiation est une éducation qui consiste à transmettre. Alors, de toute façon, l'éducation, c'est toujours transmettre, hein, mais qui consiste à transmettre une culture, un peu comme on lance un ballon dans un jeu. Voilà. Maintenant, mon fils, je te lance le ballon. Moi, je suis vieux.
On passe le relais, quoi.
Je passe le relais. Le ballon, maintenant, est entre tes mains. Et puis, toi, tu le passeras à d'autres. Mais le ballon reste entier. C'est toujours le même ballon. Voilà. Ça, c'est l'éducation d'initiation. Je me rappelle avoir une fois un étudiant africain qui m'avait dit, là, le 7 ou 8 juillet, là, je pars dans mon pays. Mon grand-père, qui est âgé, a décidé que c'est à moi qu'il allait passer la parole. Dire tout ce qu'il sait dans le village. Donc le garçon partait pour passer un certain nombre de semaines avec son grand-père qui allait lui dire tout ce qu'il savait. Ça, c'est la transmission par initiation. C'est très important. D'ailleurs, nous faisons toujours de l'initiation en partie, bien sûr. Mais nous, en tant qu'occidentaux et occidentaux chrétiens, parce qu'en fait c'est le christianisme qui est le judéo-christianisme qui nous a laissé ça en héritage, nous avons en plus de l'initiation une éducation d'initiative. C'est-à-dire que nous passons la parole, un peu comme ce vieil Africain, mais en plus, nous disons à l'enfant, tu es libre. Pourquoi ? Parce que nous avons un Dieu qui nous a laissé libre au départ, et ça nous a transmis la liberté, c'est devenu la démocratie, c'est devenu, etc. Et donc, nous disons à l'enfant, si tu veux renier ce que je te donne, tu peux. Hein. Seulement, à ce moment-là, il faut que tu sois responsable. Parce que être libre, c'est savoir ce dont on est responsable et puis l'assumer. Donc ça nous ajoute, en effet, comme vous le dites, une tâche supplémentaire et beaucoup plus complexe, parce que du coup nous courons beaucoup de risques, beaucoup plus de risques. Il faut quand même que nous ayons de l'autorité, parce que c'est ça aussi l'éducation, mais nous allons, à partir d'un certain moment, c'est nous qui en décidons, laisser l'enfant à lui-même. Et donc nous courons des risques. C'est plus difficile, je pense.
Le point d'équilibre est plus difficile à trouver.
Le point d'équilibre est très difficile à trouver. À partir de quand est-ce qu'il faut laisser l'enfant libre de penser par lui-même ? Et puis, il y a aussi un risque qui est bien développé aujourd'hui, qui consiste à dire qu'il n'y a plus que la liberté. La liberté, en fait, remplace la transmission.
Oui, comme si l'héritage était un tissu de contraintes qu'il faut supprimer.
Voilà, exactement. Et donc, l'héritage, c'est plus que la liberté, toute seule. Ce qui est aberrant, parce que la liberté, c'est du vide. Donc, il faut transmettre des choses lourdes, des choses pesantes, des choses qui ont du sens. Et puis, la liberté est un couronnement. Mais la liberté ne remplace pas le sens. C'est un peu le problème que nous avons en ce moment.
Oui, dans les familles, mais dans la société tout entière. C'est pour ça que je disais en introduction, en réfléchissant sur l'enfance, on finit par réfléchir sur le...
Dans la société tout entière.
J'ai laissé une sorte de pôle contradictoire ou de tension qui peuvent traverser les familles, chaque individu aussi, parce qu'il n'y a pas que la société ou la famille. Tension entre lignées. Tradition, on en a parlé, et l'autonomie d'autre part, la loyauté et l'appartenance à une communauté et la liberté, l'autonomie, on aurait pu dire à nouveau, l'interdiction et la transmission d'une loi morale et le jugement critique. En fait, au fond de tout ça, on voit que le point d'équilibre, c'est peut-être cette notion d'autonomie dont vous parliez, c'est-à-dire transmission et autonomie, c'est le couple qu'il faut viser.
Oui, oui, même si... l'autonomie est à la fois par certains mal vue, par d'autres mal comprise. Bon, on la comprend en indépendance, c'est pas du
oui,
tout.
Vous précisez que ce n'est pas l'indépendance.
Voilà, un enfant n'est pas indépendant et un adulte non plus n'est pas indépendant parce que tous nous autres, quel que soit notre âge et notre force d'âme, nous dépendons tous des autres. Hein, nous dépendons de l'affection qu'on nous porte, de la reconnaissance qu'on a pour nous, plus ou moins. D'un très grand nombre de choses, nous dépendons de nos communautés, nous sommes inscrits dedans. Alors bien sûr, nous sommes libres vis-à-vis d'elles, c'est-à-dire que nous avons la possibilité de nous en dégager, mais néanmoins, nous en dépendons entièrement. Donc l'autonomie, c'est pas ça, c'est pas l'indépendance, nous ne sommes pas indépendants. Je pense que l'indépendance, c'est vraiment un gros leurre. L'autonomie consiste à se donner sa propre loi, mais ensuite à l'assumer, hein. Ensuite à en être responsable. Donc on commence par donner un tout petit peu d'autonomie quand on permet à un enfant de 7 ans de traverser la rue tout seul pour aller acheter du pain. Voilà. Ça consiste à le rendre responsable de sa traversée de la rue et de l'euro qu'il a dans la poche pour acheter son pain avec lequel il ne va pas acheter des bonbons à la place. Ça commence comme ça, ça commence tout petit et puis petit à petit ce sont les parents qui savent à quel moment... on va pouvoir le laisser à 15 ans prendre un avion tout seul pour aller dans une ville inconnue de l'autre côté de l'Atlantique, par exemple. Voilà. L'autonomie, ça s'apprend. Et la grosse erreur que font les gens de l'éducation nationale maintenant, enfin depuis un certain temps, nos pédagogues du pédagogisme, c'est de s'imaginer que l'autonomie est innée. Hein, que l'enfant possède l'autonomie dans son berceau. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Ça s'apprend comme tout le reste. La liberté s'apprend.
On devient homme.
Comment ?
On devient homme aussi.
Ben oui, bien sûr, on devient un humain petit à petit. Alors on est un humain au départ, bien sûr, ontologiquement, mais on devient adulte déjà.
À titre d'exemple, vous citez les cas sidérants. Il provoque là aussi de l'effroi de ces enfants sauvages.
Les enfants sauvages, oui. Alors j'ai insisté là-dessus parce que. C'est très important pour montrer les erreurs d'aujourd'hui, qui commencent d'ailleurs, j'ai parlé de Victor de l'Aveyron, qui commence avec l'affaire de Victor de l'Aveyron, au fond, c'est l'époque de Rousseau. S'imaginer qu'au fond, tout est là à l'origine, alors que c'est pas vrai. Les virtualités sont là à l'origine, mais ce qui advient après, c'est le fait de l'éducation. L'enfant est au fond, au départ, un homme au sens où il est un hominidé, mais il n'est pas un homme au sens où il est un humanisé. Victor de l'Aveyron n'est pas humanisé. Ce sont les adultes qui humanisent l'enfant, qui font d'un hominidé un humanisé. Et donc, j'ai insisté lourdement là-dessus, en donnant des cas, un certain nombre de cas d'enfants qui avait été retrouvé, bon maintenant c'est une chose qui n'existe plus heureusement, qui avait été retrouvé, qui avait vécu avec des animaux qui leur avaient permis de vivre et qui finalement étaient devenus comme ces animaux, c'est-à-dire qu'ils grognaient comme des cochons ou qu'ils sautaient comme des isards ou comme des loups. Et ce qui montre bien que finalement, c'est l'éducation qui nous humanise. J'ai cité une phrase de mon maître François Dagonier qui avait très heureusement, ce qu'il faisait toujours d'ailleurs, préfacé le livre sur Victor de l'Aveyron et qui disait « Victor était prisonnier de ses commencements ». Victor n'a jamais appris vraiment à parler. Il n'a jamais été humanisé parce que c'était trop tard pour lui. C'est terrifiant comme histoire.
Toutes ces histoires d'enfants sauvages sont terrifiantes. On parle vraiment de l'effroi, mais à plus d'un titre. Un effroi aussi, d'abord, on a beaucoup de peine pour ces enfants, mais c'est un effroi d'ordre métaphysique aussi. C'est-à-dire avoir l'humilité de reconnaître que voilà, nous ne sommes finalement pas nécessairement programmés s'élever.
Ça prouve que nous avons été faits par nos éducateurs, commencés par nos parents, et nous avons été faits, humanisés par eux. Et sinon, nous serions de simples hominidés, rien d'autre. D'ailleurs, alors j'ai cité le cas bien plus épouvantable, parce qu'au fond, ça a été fait, encore une fois, de façon systématique par un totalitarisme. Le cas des enfants roumains, des enfants des Kamen Spital, qui, alors là, ça touche... C'est pas exactement le chiffre, mais on pourrait dire quelque chose comme 50 000 enfants, peut-être 100 000, je ne sais pas exactement, parce que je ne connais pas la situation suffisamment.
Oui, il faut rappeler le cas de façon même prosaïque.
Ceausescu avait décidé que son pays serait très riche démographiquement, et donc il imposait, si tant est qu'on puisse imposer une chose pareille, à toute famille d'avoir un minimum de 5 enfants, c'est-à-dire que toutes les femmes étaient vues tous les mois par des médecins, naturellement les contraceptions étaient interdites, etc. On faisait tout pour que les gens aient beaucoup d'enfants. Et donc il y avait beaucoup de gens qui étaient trop pauvres, et puis qui ne voulaient pas tant d'enfants, et qui abandonnaient leurs enfants. Alors, en même temps, Ceausescu avait créé ce qu'on appelait des Kamen Spitals, des orphelinats hôpitaux, dans lesquels on envoyait les enfants dont les parents ne voulaient pas, pour des raisons ou pour d'autres. Mais enfin, dans ces Kamen Spitals, les enfants étaient, je dirais pas maltraités. Oui, maltraités en soi. Ils n'étaient pas aimés, bien sûr, et ils n'étaient pas aidés. Alors, on les mettait à 3 ou 4 par lit, on leur donnait à peine à manger. Bien sûr, toujours, ils mangeaient comme des chiens, on leur apportait une espèce de gamelle. Ils n'avaient pas de jouets, ils avaient des vêtements. Ils étaient traités absolument comme des animaux. Et tous ces enfants sont devenus fous, en fait. Ils sont devenus psychiatriquement atteints. Et après, certaines personnes, quand il y a eu la chute du mur et que le pays s'est ouvert un peu après, 2 ans après la chute du mur, on a pu adopter certains de ces enfants. Il y a des familles très, très courageuses qui l'ont fait. Et ces enfants n'ont pas été, j'allais dire, rattrapés. On pourrait dire que, comme Dagoniel l'avait écrit, ils étaient prisonniers de leur commencement. Et ça, c'est terrifiant, parce que là, ça a été fait volontairement par un fou. Et ça, c'est terrible, quoi.
Alors, c'est un cas paroxystique, mais...
C'est un cas, heureusement, paroxystique.
Mais on peut trouver des parentés avec d'autres démarches qui consistent à considérer que l'enfant étant un... riche de potentiel et une promesse, eh bien, on pourrait, en quelque sorte, le programmer en l'extirpant de son environnement naturel pour en faire un homme nouveau.
Oui, c'est ce qu'a essayé le communisme, en URSS, notamment. Donc, on estime, alors là, nous avons quelques chiffres qui sont peut-être sujets à caution, c'est pas ma spécialité, il faudrait demander à Stéphane Courtois. À peu près 2 000, ils ont réussi à soustraire 2 millions d'enfants à leur famille sous Staline, pour les faire éduquer bien, entre guillemets, c'est-à-dire en dehors des miasmes de l'éducation parentale, mauvaise, traditionnelle, etc. Donc pour les faire éduquer par l'État. Alors, nous n'avons pas d'enseignement, enfin, à ma connaissance, sur les résultats de ça. Nous avons le cas des enfants grecs qui ont été enlevés à leur famille par le Parti communiste. Et là, j'ai plus de renseignements puisque j'ai écouté le témoignage d'un ami sur lequel j'ai d'ailleurs écrit un roman, parce que sa vie s'est écoulée là autour de ça. Alors là, c'est un cas un peu différent parce que c'était des enfants qui étaient déjà en âge de marcher, qui avaient déjà un peu été à l'école. Et ils ont été littéralement enlevés et emmenés dans des espèces d'orphelinats dans des pays de l'Est. Là, c'est l'exemple que je connais, se passe en Tchécoslovaquie. Et ils ont été éduqués par des jeunes moniteurs qui étaient en fait des gens qui avaient de l'empathie pour eux. Donc je pense que ça s'est pas mal passé. Alors évidemment, les parents les cherchaient, les enfants pleuraient pour retrouver leurs parents. Donc il y a toujours eu au fond des tentatives comme ça, et les régimes totalitaires évidemment étaient les premiers à essayer ce genre de choses.
Ce qui choque évidemment énormément dans ce type de cas, c'est que les enfants sont arrachés de force à leur famille, ouais. Et qu'on plaque une idéologie totalement artificielle en guise de culture. En revanche, j'espère ne pas vous choquer, mais il y a quand même une forme de parenté lointaine, néanmoins, avec cette éducation d'initiation, en ce sens où il s'agit quand même de donner un pack culturel pour la vie qui est déjà établi qui n'a pas à être modifié. Est-ce que je fais fausse route ou même si cette culture est plus riche, il s'agit quand même d'un pack préfabriqué.
Oui, non, vous avez raison, parce que dès qu'il y a totalitarisme ou apparenté, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui existent, hélas, il y a forcément une sorte de corpus dogmatique dont il ne faut pas sortir. Par définition, le totalitarisme ne donne pas la liberté aux individus de se sortir de ce dogmatisme. Par conséquent, on essaye d'éduquer les enfants dans ce corpus de façon à ce que leur famille ne les en détourne pas. Donc effectivement, il y a ça.
On a l'impression de cheminer entre plusieurs abîmes, hein, quand même.
D'un côté, c'est la vie, je pense.
Oui. Voilà, oui, certainement.
D'un côté, trop de liberté, de l'autre, pas assez, par exemple.
Enfin, pour que c'était... La désaffiliation totale d'un côté, la reproduction de l'autre, oui. La servitude ou la licence.
Mais vous savez, si vous lisez certaines choses, certaines directives de l'éducation nationale qui vous expliquent que les enfants doivent aller voir l'assistante sociale de leur lycée et pas leurs parents en cas de certains problèmes intimes, il y a aussi quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un prêt-à-penser obligatoire. Alors, bien sûr, heureusement, nous ne vivons pas dans une dictature, nous sommes libres, mais enfin, il y a quand même encore, il y a un prêt-à-penser obligatoire, et il y a une idée dans l'éducation nationale, en France même, selon laquelle il ne faut pas trop écouter les parents sont ringards, les parents sont traditionnels, vous voyez, il faut arracher les enfants à leurs parents, enfin, c'est ce qu'avait écrit Vincent Peillon, hein.
C'est la citation que j'essaye de retrouver, mais je suis très embarrassé.
Oui, effectivement, elle doit être par là, mais... Je ne la connais pas par cœur.
Oui, dans l'esprit, il explique que la mission de l'éducation nationale est de rompre les liens...
D'arracher les enfants
à leur environnement familial pour fabriquer de vrais républicains.
Exactement.
C'est quand même un peu sidérant dans l'expression. Toujours est-il que... puisque l'on parlait de cette difficulté à naviguer entre plusieurs abîmes, c'est compliqué, tant pour un État, même à la place de quelqu'un qui voudrait établir un corpus équilibré dans l'éducation nationale, qui ne faille pas arracher les enfants à leur famille, c'est le bon sens même, c'est la base, et se substituer à eux. Toutefois, qu'on en soit éducateur privé des parents ou des personnes chargées d'une éducation publique, c'est quand même assez complexe. Vous évoquez le problème de la norme morale. On a l'impression que ce qui compte, c'est d'avoir une forme de distance. C'est-à-dire qu'il faut à la fois transmettre, mais en même temps accompagner cette transmission de repères, de référents, de points fixes grâce auxquels l'enfant va se construire par une forme de... J'ose pas dire un clin d'œil, mais une distance qui lui permettra de s'en extraire et de porter un jugement critique.
Comment oui, mais ça, c'est quand même... c'est déjà l'attitude des parents qui ne disent pas « Voilà, ceci, c'est la vérité absolue, c'est moi qui la tiens », mais qui disent « Voilà ce que je pense, l'expérience de la vie m'a laissé comprendre que j'ai cru ça toute ma vie et je ne m'en défais pas et je ne le regrette pas, etc. Mais il y a d'autres gens qui pensent différemment. Voilà, la vérité n'est pas tout entière entre mes mains. C'est quand même... ça me paraît être ça, l'expérience occidentale, hein, quand même.
De la distance, mais pas du relativisme.
Ben voilà, on n'est pas obligé de tomber pour autant dans le relativisme, mais de la distance et puis de la tolérance.
C'est ténu quand même tout ça.
Ah oui, bien sûr, mais ça c'est la vie, ça.
Dans le même ordre d'idée, vous décrivez la façon dont, à l'inverse, l'éducateur peut basculer dans le despotisme. Comment s'en protéger? C'est une propension naturelle, hein, finalement, pour un père de famille ou un éducateur. C'est un rôle qui peut être même assez narcissique.
Bien sûr. Eh bien, pour s'en protéger, bah, il y a quand même... J'estime que c'est tout à fait normal que les services de l'État veillent au grain que, quand un enfant est maltraité, qu'il soit enlevé à ses parents. Je pense que c'est aussi le rôle de l'État, ça. Donc les communautés, à commencer par la famille, bien sûr, sont essentielles. Il ne faut pas arracher l'enfant à ses communautés, ça, c'est horrible. Et néanmoins, il faut quand même aussi qu'il y ait au-dessus d'abord les communautés plus grandes, le village, enfin le quartier, l'étage. Quand on entend un enfant qui manifestement se fait molester, je pense que le voisin a le devoir d'intervenir. Et puis les services de l'État, je pense que tout ça est normal. Il me semble qu'il ne faut pas... Donc il faut, pour commencer, il ne faut pas défendre l'autocratie. Voilà. Et c'est pour ça que je suis démocrate. Je défends un état de droit. Voilà. Où, au fond, les différents pouvoirs se surveillent mutuellement. C'est-à-dire, l'État peut surveiller, quand même, que les parents ne fassent pas n'importe quoi avec leur enfant. Ça me paraît tout à fait normal. Et puis, en même temps, les citoyens sont là pour surveiller l'État, pour qu'il ne déborde pas ses pouvoirs.
Démocrate, mais la famille n'est quand même pas une démocratie.
Non, pas du tout, parce que la démocratie n'est pas faite pour ce genre de société. La démocratie est faite pour la société civile, c'est-à-dire une société dont les finalités ne sont pas données d'avance. Et la démocratie consiste à laisser les citoyens se donner la finalité qu'ils ont choisie. Tandis que dans les sociétés petites, à commencer par la famille, mais ça peut être aussi le syndicat, le parti politique... une église, etc. Ces sociétés-là se sont donné leur finalité au départ. Elles n'ont pas, les parents n'ont pas à réunir les enfants pour savoir comment la famille va s'organiser. De même que une église n'a pas à réunir ses fidèles pour savoir si on va changer tout d'un coup de religion. Les finalités sont données d'avant. Ce n'est pas le même type de société. Il n'y a pas de démocratie dans la famille, il n'y en a pas dans l'armée, il n'y en a pas dans... Oui. Il peut y avoir une décentralisation de décision, mais ce n'est pas pareil. Subsidiarité, par exemple. Mais pas de démocratie, c'est pas pareil.
L'ouvrage se conclut par une forme d'apologie très, très tendre, d'ailleurs, de ce que Peggy appelait la petite vie.
Ouais.
La petite vie qui se déroule justement dans la famille.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous décrire cette petite vie et en quoi elle est le fondement de finalement beaucoup de choses et peut-être le lieu où tout se joue.
C'est ce que dit Peggy et c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup frappé dans son texte, qui est très beau, comme d'ailleurs la plupart de ses textes. La petite vie, c'est justement, ça commence par la vie familiale, c'est la vie quotidienne, c'est la vie simple. C'est la vie des gestes d'habitude, des gestes que personne ne regarde, des petites choses qu'on fait. Si on les fait bien, c'est juste pour sa propre conscience. Donc c'est ça la petite vie, au fond. Et Peggy, dans un passage qui est magnifique, dit, au fond, c'est la petite vie qui détermine la grande. Ça veut dire que, voilà, si vous vous comportez de telle ou telle façon dans la vie quotidienne, eh bien, c'est ainsi que vous vous comportez dans la vie sociale. Et il ne doit pas y avoir, il ne devrait pas, parce que, au fond, c'est un peu la tentation, y avoir de hiatus ou de rupture entre les deux. Entre bon, ce qu'on ne peut pas appeler la grande vie, parce que ça a une autre connotation, mener la grande vie, c'est autre chose. Mais, disons, la vie publique, la manière d'être avec les gens avec qui on travaille, avec les gens avec qui on est en public. Et puis, la petite vie, c'est-à-dire la vie quotidienne, la manière dont on se comporte avec les enfants. C'est-à-dire que pour prendre, je ne sais pas, un exemple complètement idiot, si vous tenez bien votre couteau et votre fourchette, et si vous ne buvez pas le contenu du rince-doigt lorsque vous êtes dans une réception, ou lorsque vous êtes chez des amis, eh bien, il n'y a pas de raison qu'avec vos enfants, vous vous comportiez différemment. Donc, tout doit être une unité. Voilà ce que dit Peggy. Et au fond, il dit, le fond des choses, c'est la petite vie, c'est la manière dont on se comporte dans la famille. Et c'est ça qui manifeste tout le reste, ou qui devrait manifester tout le reste.
Cette petite vie, pour qu'on se fasse bien comprendre, n'est pas quelque chose d'étroit, hein, au contraire.
Non, c'est la vie simple. La vie simple, travaux ennuyeux et faciles. Oui, au fond, c'est la bonne vie. Ouais. Mais il dit cela à propos des politiques qui font une chose dans la vie publique et puis une autre chose dans la vie privée. Et effectivement, c'est la question qu'on peut toujours se poser. Est-ce que ce politique, tel ou tel, bon, peu importe, qui se comporte de façon bizarre dans sa vie privée, je ne sais pas, qui trompe sa femme, qui trompe les siens, par exemple. Est-ce que je peux avoir confiance en lui lorsqu'il me dit qu'il fera ceci ou cela ? C'est ça le problème de la petite vie. À partir du moment où sa vie privée est comme ceci, est-ce que sa vie publique pourra être comme cela ?
Ou à l'inverse, d'ailleurs.
Ou l'inverse, bien sûr.
Celui qui se comporte comme un sagouin dans ses...
Donc ça rend, si vous voulez, la vie de famille très importante, ça.
Je voudrais que vous précisiez que cette petite vie, elle est importante par les conséquences qu'elle peut avoir, les valeurs qu'elle transmet. Vous expliquez à un moment que la transmission ne se fait pas par des discours, mais par l'exemplarité, par l'exemple qu'on donne au quotidien, mais que c'est une véritable aventure. Je reviens au terme, un personnage d'aventure, mais cette petite vie, c'est peut-être l'une des plus complexes, les plus profondes aussi.
C'est pour ça que je trouve qu'on a beaucoup trop insisté pendant si longtemps sur le héros de la gloire. Je pense que le vrai héros, c'est le héros du quotidien. Et encore Peggy, quand il dit « les pères de famille sont des héros », c'est tout à fait vrai. Les parents sont des héros, des héros du quotidien. Et c'est vrai que là est la véritable aventure, d'autant plus que justement, elle n'est pas couronnée, elle n'est pas reconnue, elle n'est pas regardée. On n'en tire aucune gloire. Et c'est d'autant plus difficile de faire des choses simples, mais qui sont tellement importantes et dont on ne tire aucune gloire. Ça, c'est vrai que l'aventure, au fond, est là. Parce que quand on ne sait pas ce qu'il faut faire avec un enfant, je ne sais pas, qui ne travaille pas en classe, qu'on ne sait pas dans quelle école il faut le mettre, qu'on voit à quel point tout ça est important pour la suite, et qu'on va prendre des décisions complètement dans le noir, ça, c'est la vraie aventure. Parce qu'il y a tellement de choses qui en dépendent.
Est-ce que vous me permettez de citer un passage
de
ce chapitre ? Là, c'est la conclusion, ici. Les parents sont typiquement des aventuriers qui évoluent dans une mer de nuages et croient à leur bonne étoile. Leur bonne étoile, c'est l'amour. On sait que l'amour, outre qu'il n'est pas toujours bien utilisé, ne peut aplanir tous les chemins. Pourtant, c'est bien lui qui confère ici cette sécurité de somnambule avec laquelle l'aventurier conduit sa vie.
C'est vrai. Je pense que si vous prenez un aventurier... ceux qu'on regarde, c'est le petit Saint-Exupéry qui est sur la couverture, celui qui monte dans un avion incroyable, enfin à une époque incroyable plutôt, eh bien finalement les parents, quand ils prennent des décisions, c'est bien ça, et d'autant plus grave que c'est pas leur vie qui risque, mais c'est l'avenir d'un enfant dont ils ont pris la responsabilité, et tout ça effectivement dans le noir.
Écoutez, je pense que ça peut constituer une conclusion, ce cri d'amour et d'admiration à l'égard non seulement des enfants, mais aussi des malheureux éducateurs.
Des parents et des éducateurs, bien sûr.
Qui portent ce fardeau. Et je les invite à consulter, lire et surtout digérer, maturer tout ce qui est dans votre ouvrage, extrêmement riche et qui est tout sauf un livre de recettes. Dieu merci, car le livre de recettes,
ça n'existe pas.
Le livre existe, mais généralement, la tambouille qui en ressort est âpre. Il s'agit donc d'un personnage d'aventure, petite philosophie de l'enfance, aux éditions du Cerf par Chantal Delsol. Beaucoup plus qu'un guide, un contrepoint, quelque chose qu'on peut poser sur sa table de nuit, emmener avec soi tout au long de cette aventure qui est donc la vie.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci. Thank you.